C'est la deuxième heure de ce 1236e Sweet Home Chicago. Place au jazz et au swing avec le batteur Guillaume Nouhau, batteur incontournable de la scène jazz internationale. Guillaume Nouhau s'est produit sur les plus grandes scènes et festivals de jazz en Europe et participe régulièrement à des tournées à travers le monde. Nous découvrirons ses passions, la musique, le jazz et la batterie bien sûr, mais aussi le vin, un de ses amours d'épicurien et de bordelais allant jusqu'au diplôme d'œnologie. Très tôt immergé dans la musique, Guillaume Nouhau a depuis plusieurs décennies déjà multiplié les collaborations. Chuck Berry, Steve Lacy, Scott Hamilton, Red Holloway, Bob Wilbur, Leroy Jones, Cecil McLaurin Salvant, Didier Lockwood, Jason Marsalis, David Torkanowski, Julien Brunotto, Nirek Mokar et bien d'autres. Il a porté son swing sur quatre continents, jouant avec maestria son jazz, son swing, son groove avec passion et délectation. Pédagogue averti, il sortira en fin d'année un troisième ouvrage consacré à l'histoire de la batterie à la Nouvelle-Orléans, la ville de prédilection des musiciens qui savent que tous les styles de musique y ont droit de citer, pourvu qu'il soit interprété avec sincérité, passion, sens du partage et de la fête. Parmi la bonne centaine d'albums qui portent sa marque, Guillaume Nouhau a également fait paraître de multiples disques sous son nom, dont un avec de nombreux clarinettistes, l'autre plusieurs pianistes. Récompensé par le prix d'Académie du Jazz et le prix du Hot Club de France, ses albums en tant que leader ont aussi reçu les éloges de la critique musicale partout dans le monde. Portant ses efforts à la fois dans le sens d'une étude ethnomusicologique des musiques noires américaines et d'une pratique assidue de la batterie, avec en corollaire la joie de transmettre, Guillaume Nouhau nous fait partager son univers à travers une interview absolument palpitante. La voici. Je suis au téléphone avec Guillaume Nouhau. Bonjour Guillaume.
Bonjour Marc.
Guillaume, tu es batteur de jazz, auteur, compositeur, chef d'orchestre. Tu es né le 30 juillet 1976 à Arcachon. La batterie t'intéresse très tôt puisque tu y travailles depuis l'âge de 6 ans, je crois. On compte plus tes formations, tes collaborations. C'est assez compliqué de s'y retrouver dans toute ta biographie. Il y a également pas mal de prix qui ont été obtenus tout au long d'une carrière déjà bien bien fournie. Mais tout d'abord, est-ce que tu pourrais évoquer avec nous ton initiation, tes débuts, les débuts de ton parcours professionnel, musicalement parlant bien sûr, Guillaume?
Oui, donc en fait, c'est très simple. Mes débuts ont été faits d'une manière la plus traditionnelle qui soit. C'est-à-dire que mes parents m'ont inscrit à l'école de musique dans la ville où j'ai grandi, à la Teste de Buch, donc sur le bassin Arcachon. Quand j'avais 6 ans. Et puis, à cette époque-là, on commençait pas l'instrument directement. Donc, j'ai fait 2 ans uniquement de solfège avant de pouvoir démarrer vraiment à jouer de la musique, quoi. Mais au départ, en fait, je souhaitais apprendre le saxophone. Et puis, il se trouve que le professeur de saxophone de l'école de musique où j'étais venait me rendre visite à peu près tous les 3-4 mois pour voir un peu l'évolution de la taille de mes doigts. Parce que, en fait, il disait que j'avais des doigts trop petits pour démarrer le sax encore, parce que je pouvais pas atteindre toutes les touches. Et puis au bout de 2-3 fois où il est venu me rendre visite pendant mon cours de solfège pour voir si j'avais grandi des doigts, il m'a encore sorti la même réponse. Bon, on va attendre un peu parce que tes doigts sont encore trop petits. Et là, j'en ai eu marre et j'ai dit, bon, finalement, je veux plus faire du sax, je veux faire un instrument qu'on peut démarrer tout de suite, je veux jouer de la batterie.
Et voilà. C'est là que tes prédispositions à la batterie prennent leur source. Effectivement, la taille des doigts importe peu. Finalement, les doigts, ça fait partie bien sûr du jeu, mais les pieds également. Et puis tout ce qui s'appelle l'indépendance, hein, ça se travaille dès le départ, j'imagine. Est-ce qu'il faut avoir des bases de solfège pour jouer de la batterie, selon toi ?
Oh non, pas du tout. C'est pas du tout nécessaire. Par contre, voilà, le fait d'avoir appris la musique d'une manière théorique, je veux dire très scolaire, ça m'a servi par la suite, mais oui. C'est pas indispensable. Je connais en effet plein de batteurs, et même il y a beaucoup de batteurs très célèbres qui savent pas lire une note de musique. Ça leur pose pas de problème dans leur carrière. Mais ceci dit, bon, pour moi, ça a été un plus quand même à plusieurs moments de ma vie, quoi.
Bien sûr, quand on connaît, on va égrener tout à l'heure un certain nombre d'artistes avec lesquels tu t'es produit et on va comprendre tout de suite. Guillaume Nouhau, qui sont les musiciens? Quelles sont les musiques que tu écoutais étant jeune, étant ado, on va dire?
En fait, le déclic aussi qui m'a donné envie de jouer de la batterie, c'est après avoir entendu un disque vinyle de mon grand frère. En fait, c'était un disque de Deep Purple, oui. Live in Japan. Et dessus, il y avait un morceau, je me souviens très bien, qui s'appelle The Mule. The Mule, qui est un morceau dédié à la batterie où il y a un très long solo de batterie. Et donc j'ai beaucoup écouté ce disque tout petit, vers l'âge de 7 ans, quoi, que je prenais à mon frère. Et c'était un peu le déclic pour moi de vouloir jouer cet instrument. Et voilà, quoi. Le déclic de la batterie, c'était quand même, c'était par rapport à Deep Purple, quoi.
Voilà, et ça, c'est marrant parce que c'est un album dont la référence revient souvent dans les interviews, que ce soit pour des musiciens de rock ou de blues, et puis de jazz, hein, te concernant, Guillaume. Tu es batteur de jazz, mais tu n'es pas que batteur de jazz. Tu es auteur, tu es compositeur, tu es chef d'orchestre. Dans ta pratique au quotidien, quel rôle demande le plus de travail de ta part ?
Je pense que tout ça, c'est quand même très lié, en fait, dans la vie d'un musicien. Et c'est un peu indispensable d'être diversifié, d'avoir diverses manières d'exercer sa passion et son métier. Et donc, j'ai toujours aimé être sideman, c'est-à-dire accompagner des musiciens dans leurs projets particuliers, en essayant de m'adapter au mieux à leurs souhaits. Mais j'ai en parallèle toujours aussi souhaité m'entourer des gens dont j'avais envie pour jouer la musique que j'avais envie. Donc j'ai toujours été à la fois sideman et leader. Et puis aussi, depuis à peu près toujours, j'ai toujours été curieux et intéressé par l'histoire de mon instrument et de la musique que je joue. Je me suis dit que c'était vraiment quelque chose qui allait m'apporter dans mon jeu aussi, de comprendre pourquoi tel batteur que j'aime bien joue comme ça, quelle est son histoire, sa vie. Voilà, tout ça, ça s'est fait en parallèle. J'ai lu énormément de livres sur le sujet, tout ça. Et du coup, je me suis mis moi-même à écrire des livres pour partager un peu ma passion et en même temps ça m'a servi pour moi, pour me construire en tant que musicien aussi, de mieux connaître l'histoire de la musique que je joue.
Voilà, mais à travers cette réponse-là, Guillaume, effectivement, on comprend bien l'interpénétration de tous tes rôles. L'histoire de la batterie, quelque chose d'important, d'intéressant. Comme tu disais, tous les musiciens ne sont pas forcément lecteurs de musique et pas forcément lecteurs tout court de l'histoire de la musique, mais est-ce que ça apporte véritablement un plus, notamment par rapport à ta façon de jouer ?
Oui, clairement, puisque en fait, si je dois qualifier vraiment mon style de jeu, je dirais que c'est un style traditionnel, c'est-à-dire que tout ce que je joue, c'est inspiré des grands batteurs de l'histoire que j'ai étudiés. Mais en fait, ils sont tellement nombreux que tout ça se mélange dans mon jeu et crée finalement quelque chose de plus personnel. Et je pense que j'aurais pas pu me construire musicalement sans avoir vraiment étudié en profondeur tous ces batteurs que j'aime.
Tout à fait, Guillaume, ça rejoint une des phrases de ta biographie qui, je cite, dit « Engagé dans de multiples projets, Guillaume Nouhaud a su se forger un style personnel à la fois unique et novateur, tout en préservant avec un profond respect envers l'héritage des maîtres historiques de la batterie jazz. » C'est ce que tu viens de dire dans d'autres termes, et ça qualifie vraiment ce que tu fais. On va égrener quelques épisodes de ta biographie, et puis je voulais savoir si tu pouvais nous parler de ta collaboration avec Julien Brunotto, parce que lui est assez familier de la programmation de l'émission. Avec lui, tu es arrivé en finale de l'International Blues Challenge de Memphis en 2006, ça fait déjà un bon petit moment, mais tu as joué aussi avec Chuck Berry à Paris en 2005, avec Julien, je crois. Quels étaient tes souvenirs et puis ton ressenti d'avoir joué avec un garçon tel que Julien, qui en 2005-2006 était déjà un virtuose du piano, et puis ton expérience avec Chuck Berry, est-ce que tu peux nous raconter les circonstances qui ont fait que tu es monté sur scène avec lui, pas seulement en première partie, mais c'était vraiment pour l'accompagner?
Comme j'ai dit au début de cette interview, je suis né sur le bassin d'Arcachon et je suis monté donc vivre à Paris en 1999, donc j'avais 23 ans, et c'est là que j'ai rencontré Julien, en fait. Bien que Julien Brunotto soit aussi originaire du Sud-Ouest comme moi, on aurait pu plus facilement se rencontrer dans le Sud-Ouest, mais non, on s'est rencontré à Paris. Et donc j'ai commencé à jouer avec lui en trio, puisqu'il avait un trio déjà dans le Sud-Ouest, et puis quand il est arrivé à Paris, il a souhaité poursuivre ça mais avec des musiciens sur place, donc j'ai fait partie quelques années.
Avec un contrebassiste peut-être,
ou... Oui, avec la plupart du temps, donc c'était Sébastien Gérardot, ouais. Puis parfois c'était avec Thibaut Chopin, contrebasse. Hein. Ouais. Avant moi, à la batterie, je crois qu'il y avait Fabrice Besswatt, il y a eu aussi Simon Boyer.
Boyer, oui, Fabrice avait eu l'occasion de nous en parler lors d'une interview il y a quelques mois. Et cette histoire avec Chuck Berry, alors comment ça s'est produit ?
Et alors, ça s'est produit que, à cette même époque, je jouais, et je joue toujours d'ailleurs, dans un big band toulousain qui s'appelle le Tuxedo Big Band. Et lors d'une répétition avec cet orchestre, un des saxophonistes me dit, tiens, j'ai un copain qui m'a appelé là, il est producteur à Paris, il organise un concert à l'Élysée Montmartre. pour Chuck Berry, et le batteur qu'il avait prévu l'a lâché. Ça te dirait pas de le faire? Comme ça, je le rappelle, je lui dis que ça t'intéresse. Et on est à table comme ça, en plein milieu de la journée, entre la répétition, quoi. Et je pensais un petit peu sur le temps de la blague au début. Je lui dis, bah ouais, t'as qu'à lui dire, je suis libre. Enfin, j'ai même pas regardé mon agenda si j'étais libre ou quoi, mais j'y croyais tellement pas. Je lui dis, ouais, dis-lui, je suis libre. Et en fait, il le rappelle devant moi directement. Et c'est là que je comprends que ça rend le fait, c'est un très bon ami à lui. Et il lui dit, ouais, je suis avec un super batteur, là, Guillaume Nouveau, je sais pas si tu connais, t'as entendu parler peut-être, mais enfin, voilà, il vante mes mérites, quoi. Et le gars, au final, dit, bah écoute, s'il est libre, telle date, je lui dis que c'est bon. Et donc, voilà, j'entends un peu des nus, mais je me dis, bah super. Et là, le producteur m'a rappelé quelques jours après pour me dire qu'il y avait aussi besoin d'un pianiste. Et c'est là que j'ai suggéré Julien Bonneteau, avec qui je jouais au même moment dans son trio. Et je me suis dit, bah, je pense qu'il ferait très bien l'affaire. Et puis, tant qu'à faire, j'aimerais le faire avec un pote. Et cette date. Et puis, et ça s'est fait comme ça. Donc, on s'est retrouvés tous les deux. On a accompagné Chuck Berry pour un concert à l'Élysée Montmartre. Je crois que c'était en 2005, si mes souvenirs sont bons. Et c'était d'ailleurs assez marrant la manière dont ça s'est passé, puisque en fait le producteur nous avait donné rendez-vous à la salle sur le coup de 17h pour la balance, voilà, et puis voir un peu ce qu'on allait jouer, parce qu'on avait eu bien sûr aucun contact sur le répertoire avant du concert, pas de répétition, rien du tout, c'était rendez-vous le jour même 17h à la balance,
ouais.
Donc un peu de stress quand même, et puis donc on arrive, on s'installe, et puis là bon, on voit pas Chuck Berry jusque là, on voit tous les musiciens, le reste de l'équipe, quoi. Et donc on fait le son d'une manière très classique, quoi. L'ingénieur du son me dit grosse caisse, donc je joue la grosse caisse, caisse claire, je joue la caisse claire, etc. Un peu de piano, donc il joue un peu, mais on joue jamais tous ensemble. Et puis à un moment, le bassiste, ce jour-là, qui dit, bon, ben écoute, c'est bon, je pense que tout le monde a fait son son, c'est bon, ben, on se voit ce soir. Alors,
ah oui, il n'y a pas eu de balance générale, chacun non, fait sa petite balance d'instrument.
Voilà, on a joué aucun morceau, et il dit, bon, ben rendez-vous 20h30 pour le concert. Bon, ok, donc on revient à 20h30. On n'a toujours pas vu Chuck Berry, hein, jusque-là. D'accord. Le concert est à 21h. Et puis arrive 21h-5, on n'a toujours pas vu Chuck Berry. Et le producteur est là, il dit, bon, allez les gars, sur scène.
Wow.
Donc on va sur scène. Et là, le bassiste donne un tempo, il dit, vous me suivez. Hein. Et, il dit blues en si bémol ou en do, enfin je ne sais plus exactement, mais une grille de blues facilement jouable, on va dire, sans un thème particulier. Il dit, vous me suivez, 3, 4, c'est parti. Et là, on voit Chuck Berry qui rentre sur scène par l'autre côté de la scène, chemise à paillettes et tout.
Qui arrive au dernier moment.
Donc on a fait sa connaissance en même temps que le public, finalement, sur scène. Et puis voilà, il annonçait les morceaux, enfin il les annonçait même pas, en fait il démarrait les morceaux et qu'il enchaînait les uns après les autres sans nous dire ce qu'on allait jouer. Donc heureusement, Julien et moi, on avait bien potassé tous ces grands succès, et le concert s'est très bien passé au final. Mais c'est vrai que c'était pas mal de stress de se dire, qu'est-ce qu'on joue le prochain morceau, est-ce qu'on connaît. Voilà.
Mais bien sûr. Et il se trouve que la semaine suivante, j'avais Julien Brunotto au téléphone pour une interview. J'ai dit, alors, en fin d'interview, je lui ai dit, au fait, alors ton actualité, c'est quoi? Ah, il me dit, je viens de jouer avec Chuck Berry. Et c'était ça, c'était ouais. Novembre 2005. C'était à l'Élysée Montmartre, Guillaume, hein, c'est ça?
Oui, c'est ça, c'est ça.
J'ai retrouvé la playlist de ce concert. Le tout premier morceau, c'était tout simplement Every Day I Have the Blues, de Memphis Slim. Et puis, il y a eu, comme ça, tu l'as dit, tous les grands classiques, mais également quelques reprises. Hein. La source que j'ai est bonne. Il y avait également Honest I Do de Jimmy Reed, Little Smith de Tom Parade, et puis Key to the Highway, notamment de Jazz Gillum, et puis bien sûr tous les grands classiques comme Johnny B. Goode. Ça, c'est le genre de choses, c'est le genre d'anecdotes quand même qui peut surprendre, et pas seulement les musiciens autodidactes, mais aussi ceux qui ont l'habitude de travailler, de préparer pendant des mois un répertoire. Ça serait imaginable de nos jours avec un artiste d'aujourd'hui, Chuck Berry, nous ayant quitté il y a déjà quelques années.
En fait, tout dépend le style de musique aussi, et puis tout dépend la renommée de l'artiste.
Ouais.
C'est vrai que Chuck Berry, bon, c'est pionnier du rock'n'roll, tout le monde est censé connaître son répertoire, du moins tous les musiciens amenés à l'accompagner sont censés avoir étudié et connaître son répertoire, sinon ils n'ont rien à faire là. C'est pour ça qu'en amont, c'est vrai que Julien et moi, on s'est procuré tout ce qu'on a trouvé, tous les disques de Chuck Berry, on a essayé d'apprendre tous les morceaux, et puis après il faut ouvrir grand ses oreilles sur scène et ses yeux pour voir tous les signes qui sont faits. Des fois il y a des breaks qui ne sont pas aux endroits toujours les mêmes, forcément, suivant les concerts. Après ce sont tous les détails qui vont faire la cohésion du groupe sur scène, donc il faut être extrêmement attentif, mais en amont, voilà, il faut connaître tout son répertoire. Donc, dans le cadre de Chuck Berry, oui, je pense que finalement, avec le recul, c'était beaucoup de stress, mais c'est pas tellement étonnant. Et je pense que ça doit se pratiquer un peu cette façon de faire encore avec peut-être certains grands artistes qui se font accompagner peut-être par un remplaçant une fois de temps en temps. Ben, il n'y a pas forcément de répétition avant, mais c'est vrai que c'est pas forcément courant.
Mais, et Guillaume, cette source de stress, ça donne lieu justement à de belles anecdotes comme celle que tu viens de nous raconter. C'est un peu ce que disait Bruce Springsteen en 1978 quand il a accompagné Chuck Berry pour la première fois. Comme il voyait que Chuck Berry était devant son micro planté en train de discuter avec les gens, il se retourne vers lui en lui tapant sur l'épaule et lui dit « Qu'est-ce que tu veux jouer ?» Et Chuck Berry se retourne derrière Bruce Springsteen et lui dit « On va faire du Chuck Berry. »
Ouais,
tout voilà, simplement.
C'est exactement ça.
On va revenir à ta discographie, à ta carrière. Guillaume Nouhau, tu as enregistré un album intitulé Guillaume's Invitation avec Laurie Jones et Jerry Edwards à la trompette et au trombone, Sébastien Girardot que tu citais tout à l'heure à la basse et puis Julien Brunteau au piano. Tu signes d'ailleurs 3 compositions dans cet album. Qu'est-ce que tu retires comme expérience particulière de cet enregistrement précis, Guillaume's Invitation ?
C'était à cette époque-là un peu la réalisation d'un rêve que j'avais déjà depuis assez longtemps, de faire un projet musical avec le trompettiste donc Leroy Jones, que j'admire depuis très longtemps. En fait, j'ai eu l'occasion de le rencontrer à la Nouvelle-Orléans, et puis finalement on est devenus assez amis, et j'ai fini par lui proposer d'enregistrer un album en quintette avec lui et d'autres musiciens donc français. Ça a donné naissance à cet album. Et puis à quelques concerts ensuite en France, en Suisse notamment. Et voilà, ça a duré à peu près 2 ans l'histoire. Et c'était vraiment mon rêve du moment que je voulais concrétiser. Et ça s'est fait, je suis très heureux. Et Leroy Jones, c'est un superbe trompettiste donc de jazz de la Nouvelle-Orléans, mais avec la particularité justement qu'il joue tous les grands classiques du jazz traditionnel de la Nouvelle-Orléans, mais avec un son et un phrasé inspiré de trompettistes de jazz un peu plus modernes. Mais toujours avec ce côté, cette culture un peu funky et de la Nouvelle-Orléans et le blues toujours présent dans toutes les phrases musicales qu'il joue. Oui. C'est vraiment ce jeu caractéristique des musiciens de la Nouvelle-Orléans qui me plaît énormément, et en particulier de ce musicien-là. Et donc voilà, j'ai réalisé mon rêve juste de faire un projet en l'incluant à ça. Voilà,
voilà, et puis c'est vrai, la musique de la Nouvelle-Orléans, on l'évoque souvent dans cette émission, est complètement décloisonnée. Hein. On pourrait multiplier les noms de styles comme ça et retrouver tout ça dans pratiquement chaque artiste, de Dr. John à Professeur Longhair pour les pianistes, jusqu'à... Il y a tellement d'artistes de la Nouvelle-Orléans qui sont formidables. Il y a pas très longtemps, il y avait John Cleary qui était en tournée en France. Je reviens sur une critique qui avait été faite dans la revue Jazz Magazine en 2007, qui te nommait artiste révélation de l'année. Et là, je vais citer Jacques Aboukaya qui dit de toi: il a tout d'un grand, la technique, l'énergie, l'inventivité, le swing, toute qualité rarement réunie chez un batteur de son âge, mise en œuvre aussi bien dans les orchestres traditionnel et classique que dans les contextes plus modernes, comme le groupe qu'il dirige actuellement. Fin de citation. Quel effet, Guillaume Nouhau, cela fait-il d'être ainsi reconnu par la critique et pourtant parfois réputée exigeante ?
Ben, forcément, ça fait plaisir, puisque quand on fait de la musique, ben, on espère quand même plaire au plus grand nombre. Et puis, ça motive à se lancer dans de nouveaux projets par la suite aussi. Disons que c'est le but principal pour lequel on fait de la musique, c'est pour faire donner du plaisir aux gens, de la joie. Enfin, du moins, moi, ma vision, c'est pour ça que je fais de la musique. Et en prendre moi-même, bien sûr. Donc, si je suis à la fois heureux de jouer la musique que je joue et que les gens qui l'entendent le sont aussi, ben, c'est parfait. Donc, ça fait plaisir. Voilà.
Et encore à l'air à cette question, précisons que tu avais donc 31 ans en 2007. Quelle résonance pour toi maintenant cette phrase « toute qualité rarement réunie chez un batteur de son âge » ?
Ouais, peut-être parce que justement ce côté très investi dans la tradition des anciens batteurs de jazz que j'ai beaucoup étudié assez jeune, peut-être se ressentait déjà dans cet album-là, tout en ayant une démarche de jouer une musique de jazz plus actuelle, je dirais. Enfin, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est que ça a toujours été un petit peu ma démarche depuis le début, c'est s'inspirer des grands pour créer quelque chose d'autre, de personnel, et pas faire de la copie. Voilà, ça, moi, ce que j'entends à travers ce commentaire, c'est un petit peu dans ce sens-là.
C'est dans le sens assimilation, puis ouverture aussi.
Oui, voilà, voilà.
Assimilation et puis restitution, réinvestissement, hein, comme on dit en pédagogie. Tu tournes dans la section rythmique, le groupe, la section rythmique avec Dave Blencorn à la guitare et Sébastien Girardeau à la contrebasse à nouveau. Et vous accompagnez un grand nombre de vedettes internationales du jazz. Vous enregistrez chez Frémo. Quels sont les souvenirs qui remontent aussitôt à la surface quand on évoque cette partie de ta carrière? La section rythmique, rappelons-le.
Bon, en fait, la section rythmique, c'est un nom qui a été trouvé d'ailleurs par le producteur des deux albums qu'on a sortis, Frémo et Associé. Au départ, on n'avait pas de nom de groupe, si vous voulez. La section rythmique, c'est Dave Blencorn à la guitare, Sébastien Girardeau à la contrebasse et moi-même à la batterie. Et en fait, on a commencé à accompagner des musiciens de jazz pour des tournées d'abord en France, puis dans toute l'Europe, des musiciens voilà, assez renommés. Et puis, il se trouve que ça marchait bien musicalement tous les trois, donc on a commencé aussi à faire quelques concerts sans invité. Du coup, on a eu envie d'enregistrer tout en trio et on a proposé donc ce projet à Frémo et Associés qui nous ont dit « Ouais, mais d'accord, mais Guillaume, nous, là, Sébastien Girardeau, Dave Blencorn, pour moi, c'est pas vendeur de mettre un disque à vous trois noms. C'est pas des stars encore, c'est pas très vendeur. Donc, il faudrait un nom de groupe. » Donc, on n'avait aucune idée. C'est lui qui nous dit bah, « Écoutez, vous êtes la section rythmique de beaucoup d'artistes qui tournent en jazz en Europe depuis quelques temps. Pourquoi pas vous appeler la section rythmique ?» On a dit bah, « Ok. » Et donc, c'est parti comme ça. Et à partir de ce moment-là, on se présentait comme la section rythmique, invite Scott Hamilton, invite Cécile McLaurin-Salvin. Enfin, on a accompagné tout un tas d'artistes sous ce nom-là. Et ça a duré pas mal d'années, en fait, parce que l'histoire a démarré... En fait, au festival de jazz d'Ascona, qui est un festival en Suisse, où on a commencé à jouer tous les trois, puisqu'on était la section rythmique déjà qui animait les Buffs, les jam sessions de ce festival. D'accord. Donc on y passait 10 jours, et, ou plutôt 10 nuits, puisqu'on jouait toute la nuit, en gros de 23h minuit jusqu'à 5h du matin pendant 10 jours. Et c'est là qu'aussi on a pu rencontrer et jammer avec beaucoup de grands musiciens au cours de ce festival. Et cette expérience, elle a duré à peu près 10 ans, puisque ça, en gros, depuis de 2008 à 2018, on a fait ça régulièrement tous les ans ensemble et c'était vraiment le départ de ce trio. Et voilà, on a enregistré beaucoup d'albums tous les trois, accompagnant divers artistes.
Et ensuite, Guillaume, voilà, on arrive en 2019. Et là, je pense que tu sors un album important. Je ne sais pas si tu vas être d'accord pour le qualifier ainsi. Guillaume Nou and the Clarinet Kings, avec pas moins de 11 clarinettistes. C'est le type de réalisation discographique qui devait être une première. Donc, quelle était la raison première d'enregistrer un album comme celui-ci ?
Alors, ça, c'était vraiment un challenge d'organisation, je dirais.
J'imagine bien. Oui, parce que les plannings, ça, c'est quelque chose. Hein, avec des artistes, pour certains, internationaux. Comment faire ? Et puis, pourquoi ?
C'est-à-dire qu'au départ, en fait, j'ai toujours vraiment eu une passion pour le son du trio clarinette, piano et batterie. J'adore ce jeu de batterie dans ce type de formule parce qu'il n'y a pas de basse, pas de contrebasse. Et le jeu entre le pianiste et le batteur qui sont... En fait, le pianiste, il joue à la fois les harmonies du morceau, il improvise, mais il est aussi le seul instrument de la section rythmique qui est capable de jouer des notes. Ouais. Et donc, le duo piano et batterie en tant que section rythmique, c'est pas du tout la même façon de jouer pour un batteur que lorsqu'un batteur joue avec un bassiste électrique et un guitariste ou un contrebassiste et un banjo par exemple. C'est pas du tout la même manière de jouer, et la grosse caisse est déjà beaucoup plus importante et primordiale, alors qu'en généralement avec un bassiste on évite d'avoir une grosse caisse trop envahissante pour pas justement mélanger les fréquences graves, les batteurs dans ce cas utilisent plus les cymbales Charleston ou la cymbale Wright en guise de tempo, et la grosse caisse intervient bien sûr mais d'une manière moins présente.
Oui.
Enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails de la manière de jouer, l'approche de l'instrument est très différente, je trouve, et ça m'a toujours passionné. Donc j'ai eu plusieurs trios dans ce format-là, et voilà, au bout d'un moment, j'ai eu l'occasion de jouer avec plein de pianistes différents que j'ai beaucoup appréciés, et beaucoup de clarinettistes différents que j'ai beaucoup appréciés également. Et donc souvent, avec tous ces pianistes et ces clarinettistes, je me suis dit, tiens, dans un coin de ma tête, un de ces jours, je sais pas quand, mais j'aimerais bien faire peut-être un projet avec eux, peut-être un disque ou une petite tournée, parce que vraiment j'aime beaucoup comment joue un tel ou un tel, et voilà. Et puis j'ai fait le bilan, je me suis dit en fait les clarinettistes avec qui j'aimerais faire un projet un jour, ils sont tellement nombreux que j'y arriverai pas, ma vie sera trop courte. Donc je me suis dit pourquoi pas les inviter tous sur un même double album, et voilà, et j'ai appelé ça donc Guillaume Nou et les Clarinet Kings, où j'invite 12 clarinettistes différents de toute nationalité, et pour enregistrer avec moi deux morceaux chacun, mais dans une même esthétique de jazz classique, on va dire. Et après, voilà, j'ai enchaîné en faisant le même type de concept sur un disque où j'ai fait uniquement des duos avec des pianistes de stride, voilà, mes pianistes préférés.
Guillaume Nouveau on the Stride Piano Kings avec 7 pianistes, je crois, puis un album qui rencontre un immense succès international. Et justement, à cette occasion, je voulais savoir, Guillaume, est-ce qu'à un moment donné, on n'arrive pas à crouler un peu sous les honneurs et les hommages? Comment est-ce qu'on fait pour garder la tête froide, surtout, puis continuer à jouer dans de petits endroits, comme tu le fais de temps à autre?
Bon, ben, faut juste savoir garder la tête froide, comme vous dites, justement. C'est, en fait, je me suis jamais posé ce genre de questions. Je sais pourquoi je fais de la musique. Je sais que la musique est vitale pour moi et que, je veux dire, pas dans le sens financier uniquement, mais aussi la musique est vitale comme pour respirer, quoi. Et ça, je m'en suis justement rendu compte, parenthèse, mais avec la période du Covid, quoi, hein, qu'on a tous vécu, où je, finalement, c'était pas l'aspect difficile financier de plus avoir de concert qui était le plus dur, mais c'est plutôt l'aspect de ne plus pouvoir jouer de la musique devant un public qui a été extrêmement dur psychologiquement. Pour moi, je trouve que c'est quelque chose de vital, autant que respirer, ça fait partie de moi. J'ai besoin de jouer de la musique, je peux pas faire autrement, quoi.
Oui, bien souvent, quand il y a quelque chose de vital ou de tellement important que c'est impossible de faire sans, c'est quand on en est privé que ça devient très très compliqué. Tu évoques cette période du Covid, c'est à peu près à ce moment-là que l'album Guillaume Nouveau and the Stride Piano Kings est sorti. Et là, voilà, comment faire? Comment faire pour respirer?
Voilà, donc finalement, tout ça, ça fait garder la tête froide de se dire, ben, de manière, je suis comme ça, j'ai besoin de jouer parce que c'est, pour moi, c'est ma vie, je peux pas faire autrement. Donc, en fait, la question s'est jamais posée. En tout cas, je me suis jamais emballé à me dire, je suis meilleur parce que les journalistes disent que je suis meilleur. Pas du tout, j'ai toujours gardé la tête froide là-dessus et toujours eu de nouveaux projets en perpétuelle recherche, de nouvelles choses à proposer. Et j'ai besoin de tout ça. Et comme je disais tout à l'heure aussi, à la fois d'être sideman et d'être leader, c'est un équilibre important pour moi d'avoir un petit peu les deux aussi en parallèle.
C'est ça. Voilà, ça rejoint une question que je pourrais te poser par rapport à la taille du public. Finalement, peu importe, que ce soit dans un petit endroit ou un grand festival. D'ailleurs, tout récemment, c'est là que je t'avais vu jouer dernièrement à Beuvron-en-Auge. Je suis produit avec un jeune pianiste prodige qui s'appelle Nirek Mokar. Tu fais partie de ces Boogie Messengers. Cette formation qui comprend également Stan Obarpacha à la guitare, Nicolas Dubouché à la contrebasse et Claude Bro au saxophone fait aussi la part belle de temps à autre à un certain Sax Gordon, un grand saxophoniste américain qu'on connaît bien dans l'émission. Et vous écumez régulièrement le caveau de la Huchette, hein, au lieu du swing à Paris. Est-ce que tu t'inscris également dans la tradition du jazz en tant que musique de danse par rapport à ce lieu-là qui est véritablement fait pour la danse?
Complètement, bien sûr. Donc il y a différentes approches de jazz, bien sûr. Et le jazz est très très large dans ses aspects. Mais on va dire le jazz qui m'intéresse, qui m'a plu depuis le départ, et le jazz que je continue de jouer aujourd'hui, c'est un jazz de danse, un jazz facilement accessible pour tous les néophytes, un jazz qui rend joyeux, un jazz festif, je dirais. C'est le jazz que j'aime et que je joue, c'est celui-ci. Donc, en effet, le jazz et danse, pour moi, c'est assez indissociable.
Ouais. Pour en finir avec ta discographie, qui est pléthorique, mais pour laquelle on n'a pas égrené tout, mais il y a quand même ton dernier album qui s'appelle Fine Ideas, millésimé 2023, hein, qui a fait dire notamment, oui, à Jazz Magazine, j'ouvre les guillemets, Guillaume Nouhaud, assurément le meilleur batteur de sa génération, transcende tous les groupes auxquels il participe, tant comme leader que sideman. Est-ce que tu peux nous dire si tu prends davantage de plaisir à driver un groupe, hein, véritablement, là, on parle de plaisir personnel, hein, ou à simplement accompagner un leader, quel qu'il soit. Et à certains points, est-ce que cette question a vraiment un sens quand on connaît ton implication dans tous tes projets, finalement ?
Je peux pas dire que je prends plus de plaisir à l'un ou à l'autre. C'est vraiment les deux à l'équilibre qui me font prendre le plus de plaisir. Parce que j'aime beaucoup le fait d'être engagé par un leader et qu'il me dise, voilà, moi j'aime comme tu joues, donc j'aimerais que tu sois mon batteur. Et ensuite, qu'il me dise, voilà, par contre, j'aimerais que tu adaptes ton jeu parce que moi, je préfère que les batteurs qui jouent plutôt comme ci, comme ça. Et j'aime ce travail de satisfaire un leader pour essayer de coller au mieux à ses envies. C'est une approche de musicien qui me plaît beaucoup, en fait. Et parallèlement, voilà, ce côté d'être leader moi-même est très important aussi parce que j'ai aussi des idées, des avis tranchés sur la musique que j'ai envie de jouer moi-même en tant que leader. Et voilà, j'ai envie de l'exprimer en ayant aussi mes propres projets. Donc, je dirais les deux sont vraiment importants au même point. Si j'étais que leader, je pense que je ne serais pas aussi comblé musicalement que, et également si j'étais uniquement sideman, je ne serais pas comblé. Il me faut les deux.
Et pour compléter la question, dans quelle situation est-ce que tu te sens le plus à l'aise pour innover, pour tenter des choses?
Ah ben c'est en tant que leader, évidemment, puisque là, on décide réellement dans quelle direction va la musique et c'est au leader de donner une direction aux musiciens qui travaillent avec lui aussi. Donc évidemment, c'est beaucoup plus libre en tant que leader. Le sideman, en fait, en général, quand un leader engage un sideman, un batteur, quoi, en l'occurrence, en général, c'est parce que déjà, naturellement, il aime bien son jeu, sinon il n'engagerait pas, évidemment. Donc, en général, il n'y a pas grand-chose à ajouter de la part du leader en termes de conseils, mais il y a toujours des petits trucs, voilà, qui va dire, un leader va dire, par exemple, ce morceau que tu joues au baguette, finalement, je pense que ce serait mieux au ballet, par exemple.
D'accord,
voilà. Des petits détails comme ça, qui sont des choix que le leader doit prendre dans un groupe pour que la musique sonne comme le leader a envie qu'elle sonne. Donc, d'être sideman, c'est moins de liberté, en effet.
Thank you. Guillaume, nous, on parlait tout à l'heure du fait que tu écris également. En 2012, c'est le langage de la batterie de jazz. En 2018, c'est Jazz Brushes. Tu enseignes également la batterie. Je voulais savoir pour toi quelle importance revêt la transmission de ton savoir et de ton expérience.
J'ai enseigné la batterie pendant pas mal d'années au Conservatoire des Landes, là où je vis actuellement, mais j'enseigne plus depuis 2018. Je continue, on va dire, d'enseigner très ponctuellement par des masterclass ponctuelles, mais j'ai pas de cours réguliers. Par contre, le côté pédagogique, partage de connaissances sur le domaine qui me plaît, c'est-à-dire la batterie jazz, a été présent donc très vite. Donc les deux méthodes que j'ai sorties, enfin il y en a une, c'est vraiment une méthode de ballet, et l'autre c'est vraiment entre deux, c'est entre une méthode et un livre, parce qu'il y a pas mal de choses à lire aussi. Sont des, on va dire, une sorte de compilation de conseils de grands batteurs de l'histoire sur les choses importantes à avoir en tête pour bien jouer, et puis beaucoup de partitions aussi, de relevés, de choses à travailler pour se créer un langage de batterie.
Avec un volet historique, donc tu le soulignes.
Voilà,
ça, un volet c'est important, c'est
d'ailleurs,
important ça.
Ouais, d'ailleurs, justement, je peux vous livrer un scoop à la radio là.
Allons-y.
Un nouveau livre qui va sortir en fin d'année, donc normalement prévu en novembre, où là, ça va être mon premier livre vraiment avec vrai livre, c'est-à-dire avec uniquement du texte, aucune partition, vraiment un livre à lire, quoi.
D'accord.
Historique, sur la naissance de la batterie à la Nouvelle-Orléans.
D'accord.
Et voilà, qui va sortir donc aux éditions Frémaux et Associés. C'est un sujet donc qui m'a passionné depuis toujours, et en fait, j'ai fait mon premier voyage à la Nouvelle-Orléans, j'avais 19 ans, en 96, et puis j'y suis retourné ensuite tous les ans pendant très longtemps, et à chaque fois, chacun de mes séjours, je suis allé me rendre à la Tulane University, où justement, là, ils conservent beaucoup d'interviews de grands musiciens de la Nouvelle-Orléans qui ont été actifs au début du siècle dernier. Et donc, j'ai essayé de collecter des informations là-bas, et j'ai ramené beaucoup d'interviews de batteurs de la Nouvelle-Orléans actifs durant les débuts du jazz, et en fait, le livre que je vais sortir traite sur ce sujet-là, en fait, la naissance de la batterie à la Nouvelle-Orléans. Qui sont les acteurs? Comment la batterie est apparue spécifiquement dans cette ville de la Nouvelle-Orléans, qui est voilà, un sujet qui me passionne et que j'avais envie d'étudier à titre personnel pour ma culture personnelle, mais en fait, j'ai fait tellement de découvertes passionnantes que j'avais envie de les faire partager aussi à d'autres, et donc d'où la sortie de ce livre prochain.
Voilà. Petite parenthèse, Guillaume, c'est vrai que la Tulane University regorge de trésors. Vraiment, parenthèse personnelle, pour y être allé en 1995, j'avais pu visualiser, et non pas écouter, mais voir cette collection fabuleuse de rouleaux qui remonte à la fin du 19e siècle, avec là, des enregistrements et puis des phonographes. Enfin bon, il y a plusieurs salles qui sont consacrées à l'histoire de la musique. On peut la toucher du doigt, et j'imagine qu'en y allant tous les ans comme tu l'as fait et en approfondissant tes connaissances, ça devait vraiment être passionnant. Donc on va repérer pour novembre, tu l'as dit, ce livre qui s'appelle La naissance de la batterie à la Nouvelle-Orléans. C'est le titre définitif.
Voilà, c'est ça.
On évoquait tout à l'heure le Covid, et puis on va parler d'une autre passion que tu as outre le jazz, c'est ta passion pour le vin, en tant que natif de la région bordelaise.
Ah oui.
Cas de plus naturel, effectivement. Ça te fait aller jusqu'à obtenir des diplômes d'œnologie.
Oui, c'est vrai. J'ai eu envie de me donner ce challenge aussi, d'étudier et de passer des examens dans ce domaine. Ça a toujours été une seconde passion aussi, je dirais, presque toujours en tout cas, depuis l'âge raisonnable pour pouvoir boire du vin, on va dire. Non, en fait, je trouve pas mal de similitudes finalement entre l'art de la dégustation et la description d'un vin, et la musique en fait, quand on écoute un morceau qui nous touche, et quand on parlait d'un morceau de musique ou d'un artiste à une autre personne, et ben finalement c'est un peu la même chose que quand on veut décrire un vin et l'émotion qu'il nous a apporté. Voilà, il y a un plaisir de la musique qui est auditif, et le plaisir du vin, il est plus olfactif, gustatif, et ce sont pas tous les mêmes sens qui rentrent en action, mais c'est un plaisir des sens également.
Bien sûr.
Et finalement, pour ça que je trouve que finalement pas mal de similitudes, et c'est pour ça que aussi on retrouve dans le milieu de la musique finalement beaucoup à la fois de musiciens, mais aussi de grands mélomanes qui sont bien amateurs de vin et de gastronomie également, d'ailleurs, puisque tout ça est lié pour moi, ce sont le plaisir des sens et des bonnes choses de la vie, et un lien commun entre tout ça pour moi.
Bien sûr. Voilà. Guillaume, à propos de ça, donc tout ce que tu fais en musique, on l'a déjà évoqué largement, mais également cette passion pour le vin, l'œnologie, le fait que tu aies passé des diplômes, est-ce que tu fais toujours à fond tout ce que tu entreprends comme ça?
Ça peut paraître prétentieux peut-être comme réponse, mais je dirais oui.
Oui. Mais ça se ressent en tout cas, parce que voilà, plusieurs visites à la diversité éthiolienne de la Nouvelle-Orléans et un livre à paraître. Enfin voilà, tout ce que tu as comme idée, tu fais tout pour les concrétiser finalement. Et c'est simple.
Ouais. En fait, oui, j'aime pas faire les choses à moitié. Et quand je me mets un objectif, j'ai envie d'aller au maximum de mes capacités pour aller au bout de ce que je peux faire dans cet objectif. J'aime pas faire les choses à moitié. Donc en fait, oui, si je me mets un objectif, je vais le plus loin possible.
Ouais, ça se ressent. Tu as eu l'occasion de te produire dans le monde entier ou presque, en Europe bien sûr, en Amérique, en Afrique, en Asie, je crois qu'il manque juste l'Océanie.
Oui.
Quelles expériences gardes-tu principalement sur le plan émotionnel? Quels sont les grands souvenirs qui ressurgissent?
Les grands souvenirs, bah, parmi les plus grands, quand même, ça reste, je vais pas être original, mais ça reste la Nouvelle-Orléans.
Oui.
Peut-être mon premier séjour à la Nouvelle-Orléans quand j'étais tout jeune, voilà, où ça a été un choc de culture. Je dirais que c'est la première fois que j'ai entendu des batteurs jouer avec ce groove dont j'ai pas de mots pour décrire à quel point leur jeu rythmique sur l'instrument m'a touché. J'avais jamais entendu ça en France, en Europe avant, quoi. Je trouve qu'il y a vraiment une manière d'être imprégné de la musique par les musiciens de cette ville, unique, et une manière de jouer, du coup, qui est également unique, liée à leur histoire et aux racines de la musique dans cette ville, quoi.
Et qui existe toujours malgré la diaspora. 2005, hein, quand on parle de la tempête Katrina qui a dispersé aux quatre vents pas mal de musiciens, certains ne sont pas revenus, mais l'esprit est toujours là.
Ouais, je pense que ça fait partie de la culture qui sera toujours là, parce que malgré tout, en fait, toute l'histoire de la musique à la Nouvelle-Orléans, si on regarde bien, ça se passe entre quelques familles, et puis en fait, au bout d'un moment, ce sont toujours les mêmes familles. Finalement, un tel est le cousin d'un tel qui est l'oncle, que son oncle était trompettiste dans le groupe de machin, et que son petit frère jouait de la basse dans un groupe de funk, et que voilà. Mais en fait, il y a un lien du sang aussi, par les musiciens originaires de cette ville, et un lien du coup familial, historique, qui fait qu'il y a quelque chose qui se perpétue, qui se transmet et qui est unique, voilà, aux musiciens de cette ville, je trouve.
Et
voilà,
un lien du sang, mais quand même, dans lequel on peut s'intégrer, même en tant que musicien français, pour jouer là-bas, pour jouer avec ces musiciens-là, il n'y a pas de souci.
C'est
un partage avant tout, quoi.
Bien sûr, on peut s'intégrer, mais on ne le fera jamais mieux que quoi.
Ouais.
C'est ça que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose de magique, avec, selon moi, avec les musiciens vraiment originaires de la Nouvelle-Orléans. Ils ont un truc en plus magique, voilà, indescriptible, qu'on ne sait pas pourquoi, je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais moi, je ne pourrais jamais avoir ça, et eux, ils l'ont. C'est le truc le plus marquant, on va dire, des voyages que j'ai pu faire un petit peu partout. Ça reste quand même la Nouvelle-Orléans. Il y a ce côté unique pour la musique.
Guillaume Nouhau, le 3 juillet prochain, avec Nirek Mokhtar et les Boogie Messengers, on aura l'occasion de t'applaudir à Jazz à Vienne. Est-ce que c'est un festival que tu connais déjà?
J'y ai joué une seule fois auparavant,
ouais.
Donc je connais, mais pas si bien que ça. Mais oui, j'ai eu la chance de jouer sur la scène principale, justement, de théâtre antique, qui est d'ailleurs assez impressionnant de jouer sur cette scène, puisque c'est, je crois, il y a 7000 places ou 7 ou 8000 places, et ça fait un mur de public devant soi. On garde un souvenir.
C'est ce que disait Nougaro, notamment.
Je crois que c'était de mémoire, je suis pas très sûr, mais c'était peut-être en 2014 ou 2015, la dernière fois que j'y ai joué. Donc c'est, voilà, ça remonte quand même à 10 ans, un peu plus ou moins 10 ans, avec Liliane Boutet, une chanteuse de la Nouvelle-Orléans, justement, et un groupe de musiciens français. Donc là, ce sera la deuxième fois avec Nirek Mokhtar cet été. Voilà.
Il me reste quelques questions pour conclure, mais avec pas mal de choses un petit peu ouvertes, et notamment, quel message est-ce que tu voudrais envoyer aux auditeurs de l'émission, dont la plupart sont branchés blues et peut-être un peu moins de jazz finalement, à propos de la labellisation des musiques et à propos de ton amour pour ces musiques-là?
Ce que je voudrais dire, c'est peut-être, en fait, c'est la même musique pour moi, le jazz, le blues, ce sont des petits détails vraiment dans l'approche qui différencient ces musiques. Alors le jazz peut-être nécessite plus de maîtrise harmonique parce que c'est plus riche harmoniquement,
ouais.
Mais pour un jazzman, inversement, on va lui dire, il faut qu'il ait quand même une bonne maîtrise du blues, sinon ça sera jamais un bon jazzman, puisque le blues est vraiment une partie extrêmement importante dans sa manière de jouer du jazz, selon moi. Et donc, je dirais que moi, je considère que c'est la même musique, quelque part, avec ses variantes, quoi. Mais, et encore plus pour un batteur, puisque moi, j'ai pas le problème de questions à me poser sur les notes et les harmonies des morceaux. Hein. Mmh. Ce que je veux, c'est swinguer ou groover. Et le swing est le même que je joue du jazz ou du blues. Et j'y prends je prends le même plaisir. Et franchement, moi, j'y vois pas de différence. Elles sont vraiment mineures en tant que batteur,
ouais.
Dans l'approche de ces deux musiques. Quelque part, ce sont des musiques cousines, mais vraiment très proches, quoi.
Guillaume Nouhau, quels sont tes projets pour la suite de cette année 2024 et après au niveau niveau littérature, on l'a bien compris. Ce livre qu'on attend pour le mois de novembre, La naissance de la batterie à la Nouvelle-Orléans. Est-ce qu'il y a des enregistrements prévus, notamment avec Nirek Moka ou avec d'autres musiciens?
Des enregistrements, oui. J'ai un enregistrement qui est sorti justement il n'y a pas très longtemps, une semaine ou deux, avec un saxophoniste espagnol qui s'appelle Enric Pedro. Et puis il y en a deux autres à apparaître d'ici la fin de l'année qui sont déjà enregistrés avec ce saxophoniste, avec qui je tourne d'ailleurs régulièrement, plusieurs fois par an pour des tournées justement en Espagne. Mmh. Mais le groupe principal pour moi du moment, en tant que musicien, donc sideman, c'est le groupe de Nirek Mokar, c'est vrai, où on a beaucoup de concerts prévus cette année. Et, donc en leader, j'ai mis mes projets personnels un petit peu de côté, on va dire, en ce moment, puisque justement en tant que sideman, je suis déjà très pris, donc c'est difficile. Après, ça risque de poser des problèmes dans les dates. Donc j'ai peu de choses en leader, mais j'ai quand même quelques concerts en leader. Notamment, je serai au festival Jazz and Blues de Léonien au mois de juin avec mon trio. Je serai aussi au festival de Saint-Germain-en-Laye, ce qui s'appelle le festival Saint-Germain en live, placé au mois de septembre avec mon trio aussi. Et puis voilà, toujours en Espagne, plusieurs fois par an avec Enric Pedro, saxophoniste, et également en Chine. Je vais jouer à Shanghai avec lui au mois d'octobre prochain. Et puis le trio dont on a parlé tout à l'heure, avec lequel je viens de sortir un disque avec Michel Passer au saxophone et Louis Mazzotti au piano. On a quelques concerts prévus aussi. Donc voilà, c'est un mélange de tout ça. Beaucoup de Nirek Mokar, un peu d'autres groupes, et puis un petit peu de leader aussi. C'est un peu l'équilibre de ma vie depuis finalement pas mal d'années. Voilà, leader, sideman, un petit peu les deux. Des fois c'est plus leader, moins sideman. En ce moment c'est plus sideman et moins leader, mais toujours un petit peu des deux.
Très bien. Voilà. Alors justement, voilà, ça me permet de te remercier doublement par rapport à ta disponibilité, hein, pour cette interview fleuve, par rapport à ta carrière, par rapport à tout ce que tu fais et avec qui tu joues. Voilà, après tous ces projets, bah, écoute, Guillaume, nous, il me reste à te remercier pour toute cette disponibilité que tu as eue envers l'émission Sweet Home Chicago du 666. Et puis, bien sûr, longue vie à tes projets. Et puis, toujours du plaisir à jouer de la batterie en leader ou en accompagnateur.
Eh bien, merci à toi pour l'invitation à cette émission. C'était un plaisir. Et j'espère à bientôt en chair et en os.
Oui, ça serait.
Au pied d'une scène. Voilà.
Exactement, ça serait vraiment cool. Guillaume Nouveau, merci encore et à très bientôt, j'espère. Merci.
Merci, à bientôt.
Au revoir. C'était Guillaume Nouveau avec cette interview et puis plusieurs extraits musicaux, vous l'avez compris, Deep Purple, The Mule, Guillaume Nouveau's Invitation avec Julien Brunotto pour 1944 Stomp, Chuck Berry avec Run, Rudolph Run, Guillaume's Invitation featuring Julien Brunotto pour Two Herbies, La Section Rythmique avec The Mooch, Guillaume Nouveau on The Clarinet Kings pour Melancholy Blues, Guillaume Nouveau on The Stride Piano Kings pour Handful of Keys avec Luca Filastro, Nirek Mokar, Didi Ryder avec notamment donc Sax Gordon Biddle, et puis Michel Pastre, Louis Mazetier et Guillaume Nouveau avec Nuage. Et là, en ce moment, c'est Morning qui termine tranquillement pour ce 1236e Sweet Home Chicago, cette deuxième heure, avec Jacques Schneck au piano et bien sûr Guillaume Nouveau à la batterie. On se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux invités, Lenny Lafargue, Nicolas Laperruque et Jeffrey Lucky Pepper. Salut, bye bye.